mardi 30 avril aura lieu une journée d'études consacrée au mouvement arabe de révolte 2 ans après. Cela se passera à l'Amphi Mijon, à Polytech Lille, sur l'université Lille 1, sur le domaine de la cité scientifique. Dans le cadre des rendez-vous d'Archimède et du cycle La Méditerranée. Pour nous parler de cette journée d'études, j'ai invité aujourd'hui Monsieur Jean-Philippe Cassard, qui est vice-président à l'université Lille 1, délégué à la culture et au patrimoine scientifique. Monsieur Cassard, bonjour.
Bonjour.
Donc voilà une journée qui s'annonce, j'allais dire qu'elle vient à point nommé, puisque les problèmes et les problématiques plutôt liées à ces mouvements arabes de révolte sont encore bien dans l'actualité, et donc cette journée pourra peut-être nous permettre de faire le point sur cette situation qui évolue au quotidien.
Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a bientôt maintenant un an qu'on a envisagé le programme de cette journée. On ne pouvait pas imaginer quelle serait la situation aujourd'hui. Et donc on a essayé de concevoir cette journée en prenant assez de recul pour que ce programme puisse s'adapter à l'analyse de la situation telle qu'elle est actuellement.
Alors, cette journée se fait en partenariat, notamment avec l'IMA, l'Institut du Monde Arabe, qui a une antenne qui s'installe, ou qui est installée déjà d'ailleurs entre Roubaix et Tourcoing. Peut-être qu'on peut faire le point sur cette structure et l'intérêt de ce partenariat avec l'Université Lille 1.
Alors, tout à fait. Alors, l'idée de ce partenariat, c'est une volonté au niveau de l'Université de Lille 1 de développer son activité culturelle en partenariat justement avec des structures culturelles ou des structures de la métropole pour que effectivement on puisse croiser nos publics autour de sujets ou de thèmes particuliers. Et quand on a envisagé donc cette journée d'études, le projet d'installation de l'IMA sur la zone de l'Union à Tourcoing, avec le soutien du Conseil général du Nord-Pas-de-Calais, nous est apparu comme une excellente opportunité de créer un événement en commun qui permette à l'IMA, donc une jeune structure arrivant sur la région, de se faire un peu plus connaître, et pour l'université d'avoir un partenariat qui lui apporte aussi la qualité de tout le réseau de l'IMA pour établir le programme de cette journée.
Alors, ce partenariat avec le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée aussi pour l'espace culture, pour l'Université Lille 1 ?
Alors, tout à fait. Le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais est une des structures qui soutient fortement l'action de l'espace culture, donc de la politique culturelle de l'université, en particulier avec un soutien tout à fait particulier à notre politique d'édition, donc la revue Archimède et la collection des rendez-vous d'Archimède.
Ce cycle, la Méditerranée, a débuté quand à Lille 1 ?
Alors, le cycle la Méditerranée donc, a débuté au mois de septembre. Donc, il a donné lieu à 6 conférences qui étaient plutôt sur des thèmes historiques et culturels de la Méditerranée et laisser un petit peu de côté justement l'aspect actualité de la Méditerranée et une actualité qui était récente au moment où le cycle a démarré, ou au moins où il a été conçu. Et l'idée de cette journée d'études, c'était de réintroduire dans ce cycle l'actualité sociale et politique de la Méditerranée dans ce cycle.
Alors je ne sais pas si on peut dire que le plus facile a été fait et que le plus dur ce sera cette conférence, l'avenir nous le dira, mais c'est un sujet à la fois ambitieux et à manier avec une certaine précaution.
Ah oui, tout à fait. Alors ce que l'on a voulu éviter, c'est de rentrer dans le détail ou l'analyse particulière de chacun des pays. D'abord, je pense que l'exercice aurait été difficile. Et puis, le rôle de l'université, c'est aussi de permettre aux gens qui viendront à cette journée d'études de prendre du recul et de permettre, à partir des situations qui seront présentées, d'aborder des thèmes forts qui traversent, en fin de compte, les analyses qu'on peut faire sur ces situations de la Tunisie, de la Libye, de l'Égypte, ou même de la Syrie ou du Liban, hein, qui sont aussi des pays qui sont, là, je dirais, on n'est plus dans le mouvement arabe, pour la Syrie, on peut parler de guerre, hein, de guerre civile, mais l'analyse de toutes ces situations demande aussi des clés. Et c'est un peu le rôle de la journée d'études d'essayer de nous apporter un certain nombre de clés.
Alors justement, les pays dont on parle, hein, les pays arabes, sont finalement assez différents avec des problématiques particulières. Ce qui est fait dans un ne peut pas être forcément transposé dans l'autre. Et le regard qu'on a sur, d'une manière générale, les mouvements qui ont été réalisés à partir de ce printemps arabe dont on a parlé, hein, en Tunisie au départ, c'est quelque chose qui s'est transposé peut-être ailleurs dans le concept, mais sous des formes très différentes et sur lesquelles on peut avoir des analyses totalement parallèles.
Oui, tout à fait. Alors c'est un peu le rôle du premier temps de la journée d'études, c'est justement d'explorer cette question de l'unité et de la diversité des mondes arabes. Hein, vu de l'extérieur, c'est vrai qu'on a un peu tendance à globaliser. On parle des pays arabes et de ne pas en prendre en compte ce qui fait leur diversité en tant que nation, mais aussi de regarder qu'à l'intérieur de chacun de ces pays, les réalités sont très différentes et qu'il y a des diversités, par exemple des diversités religieuses qu'on ne peut pas nier, hein, et même à l'intérieur de l'islam, il n'y a pas un islam et des islams ou des manières de voir l'islam, de vivre l'islam. Il y a des diversités ethniques qui viennent croiser quelquefois aussi les diversités religieuses. Il y a la diversité ville-campagne. Et sans parler des grandes disparités économiques qui existent entre quelquefois une minorité privilégiée, captatrice quelquefois de la richesse du pays, et la majorité de la population qui vit souvent dans des situations économiques difficiles.
Alors encore un autre élément important qui sera traité dans cette journée, c'est la place des femmes, qui n'est pas forcément constant d'un pays à l'autre et même dans un même pays au fil du temps.
Tout à fait. Alors, on l'a intitulé la place des femmes, un enjeu. Hein, et c'était un des points que, dans la collaboration avec l'IMA, nous avons vraiment mis en avant, hein, en disant qu'on ne pouvait pas parler de la réalité des pays arabes sans montrer que la place des femmes était un enjeu qui traversait l'ensemble des enjeux, hein, à la fois religieux, démocratiques, des enjeux de société. Le rôle que l'on donne à la femme et la réponse qu'on va apporter aux questions de la place de la femme dans la société est aussi une manière de dire comment la société veut ou va évoluer.
Autre caractéristique, ces pays ont une jeunesse très importante en nombre, et ce sont ces jeunesses qui ont été à l'origine des mouvements de libération ou de libéralisation, on peut en discuter, des premiers pays où ces changements, ces bouleversements se sont réalisés. Ensuite, eh bien, comme un peu dans tous les pays, hein, une révolte faite par des jeunes peut être éventuellement récupérée ou reprise en main. C'est le cas que vous avez ressenti ?
Alors c'est une interrogation, effectivement, de voir d'abord de se poser la question de savoir quelle était la situation de la jeunesse avant ces mouvements, et en fin de compte en quoi ces mouvements portaient une aspiration, hein, à quelque chose de différent, hein, donc politiquement, mais aussi au niveau sans doute des modes de vie, hein, avec le poids fort de la culture occidentale, hein, par rapport à cette jeunesse. Et aussi de l'émergence d'une société civile dans une société qui est une société qui, la plupart du temps, est une société très figée dans ses modes de fonctionnement. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, hein, de savoir si, actuellement, avec les évolutions, les aspirations de cette jeunesse, en fin de compte, ont été entendues, ou si, au contraire, d'autres, je dirais, pesanteurs, hein, d'autres rigidités sont venues prendre place des anciennes.
donc cette journée d'études aura lieu le mardi 30 avril. Ça se passera à l'Amphi Mijon à Polytech Lille, donc sur le domaine de la cité scientifique de l'Université Lille. Énormément d'intervenants sont prévus, j'allais dire, il y a beaucoup de gens. Est-ce qu'on aura aussi la place pour la parole ?
Alors, il est clair que les deux animateurs de la journée, qui sont Monsieur Arodaki de l'ENIMA et moi-même, allons avoir un travail certain à maintenir les temps de parole, parce que nous tenons effectivement à ce que le débat puisse avoir lieu sur chacune des questions que nous venons d'aborder là. Et parce qu'il est évident que là aussi, je dirais que le rôle de l'université et puis le rôle d'une journée d'études comme celle-là, c'est pas simplement d'apporter une parole extérieure, mais c'est aussi de permettre aux gens qui viendront de pouvoir poser leurs questions, éventuellement même aussi d'exprimer leurs opinions et de permettre le débat.
Alors effectivement, on pourrait imaginer que cette base d'information ou de communication sur ces problématiques pourra également servir de débat futur dans des endroits divers.
Alors, tout à fait. Alors, d'ailleurs, il y a un projet qui est en train de se concrétiser avec le Conseil régional, qui est celui de, puisque la journée va être filmée, de rediffuser le film à Dunkerque le 21 juin dans le bateau qui est donc affrété par le Conseil régional dans le cadre de Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture, et donc de se servir de ce support effectivement comme un rebond et une interrogation dans le cadre d'une autre proposition culturelle.
Donc là, on va entrer dans le vif de cette programmation du 30 avril qui démarra dès 8h le matin.
Oui, c'est très tôt.
Oui.
Je suis bien d'accord. Mais aussi, c'était une manière de garder du temps pour le débat. De garder du temps pour le débat pour que, effectivement, on ait à la fois la richesse des intervenants et le temps de débattre.
Alors, je note que le matin, il y aura Philippe Rollet, donc président de l'Université Lille, ce qui est normal, je veux dire, ça se passe à Lille. Il y aura la coordinatrice de l'antenne de l'Institut du monde arabe, donc Lucie Lequien, Sandrine Rousseau, qui est vice-présidente à la région, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc, et puis le maire de Villeneuve-d'Ascq, Gérard Caudron. Donc ça, c'est pour l'accueil, on va dire, mais ensuite, vous allez démarrer la journée en l'introduisant.
Tout à fait. Donc, je rappellerai un peu, donc en introduction, l'état d'esprit d'ouverture, d'écoute et de dialogue dans lequel on se tient à ce que cette journée se déroule, et un petit peu comme je l'ai fait pour vous, les réflexions qui nous ont amenés à structurer cette journée en prenant des thèmes qui nous paraissent être des thèmes transversaux et qui sont aussi des clés de lecture de la situation actuelle. Alors je tenais aussi à signaler que la présence de Gérard Condron s'explique aussi par un partenariat que nous avons avec la ville de Villeneuve-d'Ascq sur ce projet, puisque dans le cadre de la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq présentera donc dans la semaine qui précédera la journée d'études des ouvrages sur la situation des pays qui ont été concernés par le printemps arabe.
Voilà, donc cette journée va durer jusqu'à, on va dire, au moins 17h, 18h peut-être même.
Tout à fait.
Comment elle est articulée, comment elle est programmée? On peut donner des grands thèmes et ensuite des intervenants?
Alors, donc, on va commencer donc sur le thème donc que j'ai abordé tout à l'heure, unité et diversité dans le monde arabe, avec Jean-Pierre Filiou, qui est donc politologue, professeur en charge du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, qui est un grand connaisseur de la situation de l'ensemble des pays arabes, et puis l'intervention d'un dissident syrien, qui sera donc là. En fin de compte, sa contribution écrite sera lue par M. Arodaki. Elle a été traduite, elle sera lue par M. Arodaki. Et il nous a paru important que ce spécialiste, en fin de compte, de la connaissance des sociétés arabes puisse intervenir, bien que actuellement la situation de son pays l'empêche de se déplacer. Alors ensuite, on aura un deuxième temps qui est une interrogation sur les transitions démocratiques. Hein, on s'interrogera effectivement sur la question, c'est peut-on construire des démocraties dans un pays sans démocrate. Alors, c'est pas un jugement de valeur, mais la démocratie, c'est quelque chose aussi qui fait partie d'une culture, et que cette culture, avec la prégnance des dictatures et d'une vision religieuse qui, pour laquelle la démocratie n'est pas une référence culturelle, fait que actuellement, c'est peut-être ce qui manque à la démocratie, c'est la présence de démocrates. Et on s'interrogera aussi sur le peut-on construire des démocraties quand le poids de la géopolitique est si prégnant sur les pays qui sont concernés. Donc ensuite, ben, la place des femmes, j'en ai déjà parlé. Hein. Donc là, on invite sur la place des femmes Madame Farida Charfi, pardon, hein, qui vient de Tunisie et qui a été secrétaire d'État à l'enseignement supérieur du gouvernement provisoire tunisien, donc juste après le printemps arabe en Tunisie. Et donc, elle témoignera à la fois de son expérience au niveau de la transition démocratique, mais aussi, elle interviendra sur, bien évidemment, l'importance de la place des femmes dans cette transition. Donc ensuite, ça c'est donc la matinée, hein, trois interventions suivies de débats. Et l'après-midi, on aura deux tables rondes, donc là où les intervenants interviendront moins longtemps et qui laisseront beaucoup plus de temps au débat et à l'échange, hein, avec deux thèmes, hein, le rôle de la jeunesse dans l'émergence de la société civile et le rôle des intellectuels et des artistes. Donc là, on voit, on bascule du côté des acteurs, hein, on s'interroge sur, effectivement, les acteurs de ces mouvements et en quoi ces acteurs, quel est le rôle qu'ils ont joué et quel est le rôle qu'ils pourraient encore jouer dans la situation actuelle.
Donc quand on parle des pays arabes, ils sont tous représentés, et même au-delà, le Moyen-Orient, dans votre présentation ?
Ah oui, tout à fait. Alors, donc les pays qui sont représentés, donc on a la Tunisie, hein, j'en ai parlé. Il y a la Syrie, hein, la Palestine, l'Égypte. Hein, il y a que je pense la Libye qui n'est pas représentée actuellement, hein, dans le programme. Mais c'était la Libye a posé des problèmes de trouver effectivement soit des résidents en France qui soient capables de parler de la situation libyenne, et faire sortir actuellement des gens de la Libye, c'est-à-dire les inviter, était relativement difficile. Ceci dit, nous avons essayé de jouer la carte de la diversité à la fois des pays, on vient de le dire, aussi des approches, hein, puisqu'on a des cinéastes, un cinéaste, des écrivains, des sociologues, des politologues. Donc aussi, ce qu'on espère, hein, dans la richesse de ces intervenants, c'est aussi que les différentes manières de voir puissent s'exprimer, hein, dans le cadre de cette journée.
Jean-Philippe Cassard, cette journée aura lieu, on l'a dit, le mardi 30 avril. Hein. Ça se passe à l'Amphi Mijon, donc à Polytech Lille, sur l'espace de l'Université Lille 1, cité scientifique. L'entrée est libre sur inscription. Alors, j'allais dire, où s'inscrit-on ?
Alors, bah, on s'inscrit en allant sur le site de l'espace culture, hein, donc USTL Culture. Hein, en envoyant un mail à Fatea Chergui. Alors, Chergui, C-H-E-R-G-U-I.
Et Fatea, c'est F-A-T-H-E-A.
Voilà, univ-lilin.fr.
Alors, je suppose que la richesse du sujet va attirer beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes que vous pouvez accueillir, je suppose ?
Alors déjà, parce qu'on attend effectivement un public assez nombreux, l'espace culture a décidé de sortir de ses murs. Hein, puisque d'habitude, les conférences, hein, des rendez-vous d'Archimède ou les journées d'études se passent dans l'amphithéâtre de l'espace culture. Et là, donc, on a choisi l'amphi Mijon, qui est un très bel amphi, mais qui est plus grand, 250 places. Et si jamais, par bonheur, hein, il y avait plus d'inscrits, il y aura une retranscription... il y aura une retranscription qui pourra se faire dans un amphi annexe.
Voilà, donc le site de l'Université Lilin, bien, c'est unif-lilin.fr, c'est ça, hein ?
Tout à fait.
Et à partir de là, on se laisse guider ?
On va à Culture, hein, l'onglet Culture, et puis ensuite vous aurez tous les liens qui vont vers le site de l'espace culture.
Ce partenariat avec l'IMA va se poursuivre dans les années qui viennent. Enfin, je parle de l'antenne Roubaix-Tourcoing, on va dire Roubaix.
Alors, c'est un souhait, bien évidemment, hein, quand on établit un premier contact comme celui-là, et puis bon, qui se révèle fructueux, parce qu'on en est plutôt fiers de cette programmation, de la qualité des intervenants de cette journée, hein, et on espère aussi que la qualité des débats feront que les participants en tireront un bénéfice. Hein. Alors, vous dire si l'année prochaine il y aura un partenariat avec l'IMA, c'est peut-être pas sûr, parce que ça dépend aussi beaucoup des thèmes que l'on développe, hein, et les deux prochains thèmes de l'espace culture, c'est le corps et l'évaluation. Alors peut-être qu'à travers le corps vu dans l'art arabe, par exemple, hein, ou dans la civilisation arabe, il y aura peut-être un partenariat possible, mais pour le moment, nous ne l'avons pas encore exploré.
Jean-Philippe Cassard, vous êtes vice-président culture et patrimoine scientifique à l'Université Lilin. Si on compare les pratiques de l'Université Lilin dans le domaine, notamment de ses conférences, par rapport à d'autres universités de France, comment on situerait Lilin ?
Nous sommes un point singulier, je vais dire. Il y a très peu d'universités qui proposent une programmation culturelle qui soit... et en particulier une programmation de conférences qui soit une production originale de l'université. Hein. Alors, ça nous situe d'une manière très originale dans le paysage des universités françaises, hein, parce que souvent, la politique culturelle est plus une politique d'animation des campus. Hein. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'organisation souvent des universités, la culture est rattachée à la vie étudiante, hein, ou à la vie du campus. Je pense que sur l'université de Lilin, nous avons une autre ambition. Hein. C'est celle aussi d'être des acteurs de la réflexion, hein, au niveau culturel, hein, de la mise en question des questions de société au regard des apports scientifiques, mais aussi des apports philosophiques, sociologiques, hein, que l'université peut faire sur ces questions et de les mettre en question aussi par la confrontation.
Alors justement, toute cette programmation culturelle de l'espace culture qui s'étend parfois à d'autres lieux dans l'université, toute cette programmation dépend souvent des thématiques qui sont... prévu pour l'année, hein. Donc on en a parlé, hein, tout à l'heure, de deux thématiques, on va les rappeler.
Alors donc le corps, hein, et à propos de l'évaluation.
Donc ces thématiques ont fait l'objet d'appels, j'allais dire, à candidature, à projet.
Alors tout à fait, donc ça c'est aussi un souhait que j'avais, c'était que l'ensemble des membres de la communauté universitaire, hein, c'est-à-dire les étudiants, hein, bien sûr, les enseignants-chercheurs, mais aussi l'ensemble des personnels, puissent contribuer, hein, par leurs apports, d'abord au choix de la thématique, et aussi au contenu de ces thématiques. Donc on a reçu, donc il y a eu un appel à l'ensemble de, un mail qui a été envoyé à l'ensemble de la communauté pour les amener à contribuer sur ces thématiques.
Voilà, bien Jean-Philippe Cassard, je vous remercie et puis rendez-vous au moins le 30 avril pour cette journée consacrée au mouvement arabe de révolte 2 ans après.
Merci beaucoup.